C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 83 du 16 septembre 2024. Francis Leguay doit mourir. Francis Richer, étudiant en enseignement, découvre que l'homophobie is alive and well dans une école de Montréal. Deux hommes gays de Sherbrooke, victimes d'un piège homophobe sur Grindr, tout sur cette affaire sordide et surtout comment se prémunir contre cela. Et c'est notre premier segment Culture Queer avec Safia Nolin, Debbie Lynch-White, Antoine Charbonneau-Demers et nos collaborateurs Donald Bilodeau et Brian Saint-Louis.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Salut tout le monde. Francis Richer étudie à l'UQAM pour devenir enseignant au secondaire. Il faut faire des stages pour obtenir son diplôme. Les deux premiers, il les a complétés haut la main, mais lors du troisième et dernier stage, dans une classe du secondaire 2 de l'école Lavoie du quartier Côte-des-Neiges à Montréal, les choses se sont gâtées un peu, beaucoup même. En fait, Francis a découvert que l'homophobie, ça existe encore et bel et bien, et que ça peut être très violent, même en 2024. On reçoit donc Francis Richer. Bienvenue à l'émission, Francis. D'abord, quel le pronom et quel accord tu utilises?
Francis, il, masculin, sans
parfait,
problème, oui.
Parfait. Ben, bienvenue à l'émission, merci d'être là. Raconte-nous.
Ben, merci de me recevoir.
Ben, c'est la moindre des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, ben en fait, dans le cadre de l'un de mes cours, j'ai proposé un questionnaire numérique aux élèves, communément appelé un quiz, dans le fond, pour permettre aux élèves là, de pratiquer leurs apprentissages dans un cadre autre que le simple manuel scolaire. Et donc, les élèves ont utilisé cette plateforme-là, en fait, pour proférer leurs insultes homophobes. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'un vendredi matin, une élève me demande gentiment, là, il n'y a aucune arrière-pensée méchante dans sa question. Simplement, savant que je faisais partie de la communauté LGBTQ. Alors, comme j'ai ce genre de questions-là assez régulièrement, j'ai répondu avec plaisir. En demandant aux élèves à savoir s'il y avait des questions de relance ou des commentaires auxquels je pourrais répondre, en fait, s'il y a certains malaises qui surviennent. Mais il n'y en a pas. Donc, je continue ma journée comme si de rien n'était. C'est seulement, dans le fond, au retour du week-end, que là, une élève me dit « Ouais, ben là, monsieur, j'ai essayé de me connecter, mais ça fonctionne pas. Ça me dit que le nombre de participants est atteint. » Donc là, je suis quand même un peu surpris, là, parce que par quiz numérique, il y a une possibilité de 500 participations, puis j'ai 75 élèves à ma charge. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe. Là. Ben, en vérifiant sur son cellulaire, c'est là que je vois les propos homophobes. Je vais dire des propos banals, même s'il n'y a jamais de propos banals là, en ce qui a trait à l'homophobie. Mais c'est simplement Francis est gay, Francis is a faggot, des trucs comme ça. Et ce soir, on dit à la maison que là, je découvre l'ampleur et la portée des messages que tout le monde a probablement pu lire dans les médias, à savoir Francis est pédophile, il m'a agressé, il m'a violé tellement fort que ça saigne. Francis est un mauvais prof, Francis Leguay va mourir, vivre les génocides envers les LGBTQ. Donc, voyez un peu le genre de propos. Alors, moi, mon premier réflexe, ça a été dans le fond de contacter le poste de police de quartier de Côte-des-Neiges, sachant tout à fait qu'il y a des interventions socio-communautaires qui peuvent être effectuées à l'école. Donc, j'appelle dans une perspective de sensibilisation en premier lieu. Et donc là, lorsque je lis les propos qui ont été rapportés par les élèves aux policiers, on me disait « Ouais, mais écoutez, là, moi, si je me déplace à l'école, c'est pas pour faire de la sensibilisation, c'est pour procéder à des arrestations. » Donc, comme je ne suis que stagiaire, je décide de ne pas prendre cette décision-là par moi-même. Donc, j'en discute le lendemain avec la direction de l'école où je fais mon stage. Là, étant donné que le policier m'a dit que c'était criminel, la direction prend la chose quand même relativement au sérieux. Même si la première question qui m'a été posée en rentrant dans le bureau, c'est « Ouais, mais pourquoi est-ce que tu as parlé de ton orientation sexuelle?
Ben, » je t'arrête là, Francis. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'un prof peut faire, de parler de son orientation sexuelle à l'école?
C'est quoi, pardon?
Est-ce que c'est quelque chose qui est... Je pose la question comme ça tout bonnement. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal, légal? Est-ce qu'on peut parler de son orientation sexuelle à ses élèves?
C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous empêche de le faire, même que j'aurais tendance à dire qu'au contraire, en tout cas, je ne sais pas vous à l'époque, mais je sais que moi, quand j'étais au secondaire, j'aimais bien quand le prof s'ouvrait un peu sur ses pensées, sur sa vie. Ça faisait en sorte que je me sentais davantage plus près de mon enseignant. Puis ça, je trouve que c'est bon pour la relation qu'on entretient, non seulement avec l'enseignant, mais après ça, avec l'objet d'apprentissage. Donc, ça étant dit, moi, j'aborde pas la question de mon propre chef. Ouais. J'attends que les élèves me posent la question. Puis, une fois que ça est dit, le programme étant très à gauche, on doit, dans le fond, parmi les missions de l'éducation, c'est de socialiser dans un monde pluraliste. Donc, pour moi, ça fait du sens d'aborder ces questions-là. Hein.
J'ai l'impression... Je t'interromps. J'ai l'impression que la direction de l'école et la direction du CSSDM, le Centre des services scolaires de Montréal, ça a été un petit peu mou au départ, hein?
Oui. L'image que je donnais, en fait, c'est que la réaction avait autant de mordant que les gencives d'un bébé naissant. Je trouvais qu'on tournait autour du pot, on ne nommait pas les choses. D'ailleurs, à cet égard, quand la direction a rencontré les quatre groupes, en fait, de sondaires 2 qui... dont mon enseignante associée avait la charge. Je veux dire, la direction s'en est tenue à lire le communiqué rédigé par, révisé, devrais-je plutôt dire, par le CSSDM, où on parlait de propos diffamatoires, vexatoires, on parlait dans le fond d'éducation numérique, on parlait dans le fond d'une enquête au SPVM, mais jamais le mot homophobie n'était nommé. Donc là, moi, voyant qu'on s'en tenait à ces lignes-là, édictées par le service des communications du CSSDM, ben là, j'ai revêti mon chapeau de pédagogue en moi nommant les choses, en parlant d'homophobie. Il y a 2 ans, j'avais dû faire une intervention similaire dans un cadre de suppléance auprès de groupes de secondaire 1. Et là, j'étais allée encore plus loin en parlant de suicide, en fait, de l'impact que ça peut avoir, dans le fond, les moqueries, les insultes sur non seulement la réussite des élèves, mais également dans la vie là, des jeunes. Puis à ce moment-là, on m'avait encensé. Alors que là, rapidement, on m'a rabroué en disant que ben là, t'as pas à dire ça comme ça aux élèves, il faut leur mettre un filet de sécurité, tu sais. Donc, oui, j'ai trouvé que c'était très timide. En même temps, ça s'explique parce que la direction m'a clairement dit en rentrant dans un des groupes, dans une des classes, en fait, que je devais faire attention à ce que je disais dans ce groupe-là parce que le père d'un des élèves était particulièrement problématique, tant au niveau de l'école que du CSSDM. C'est-à-dire comme qu'il revient énormément à la charge pour faire des plaintes.
Il se plaint souvent, oui.
Mais on aborde des trucs qui ne sont pas en fonction de ses valeurs, ou en fait des valeurs de sa communauté.
J'aimerais t'amener à regarder un peu, qu'est-ce que ça dit, ce genre de situation-là, qui se passe en 2024, sur l'état de notre société vis-à-vis les diversités queer?
Moi, j'ai envie de dire qu'à chaque pas qu'on fait en avant, on en fait un ou deux de recul avant de pouvoir retourner avancer encore. Et là, j'ai l'impression qu'avec toutes les avancées qu'on a eues les dernières années, ben là, on est dans ce pas de recul-là. Où justement, depuis le retour de la pandémie, ou même pendant la pandémie, où là, les gens ont été connectés presque tout le temps sur les réseaux sociaux. Puis on sait que les réseaux sociaux sont quand même contaminés par les fausses nouvelles, par les opinions qui sont quand même très adroites, qui sont même teintées par tout ce qui se passe aux États-Unis. Puis depuis que le mauvais citoyen corporatif Meta ne veut pas jouer selon les règles de la société en refusant le partage d'informations, ajouter à cela l'algorithme qui fait en sorte qu'on se retrouve dans des chambres d'écho, bien, j'ai l'impression que dès qu'on se met à consulter certaines pages, bien là, c'est seulement ces nouvelles-là qui reviennent. Puis pas, ben, je pense que l'algorithme est très bon pour cerner nos valeurs et nos chaînes de pensée. Donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça peut expliquer l'espèce de ressac. Ouais.
On appelle ça un peu
depuis quelques années.
Oui, le biais de confirmation. J'aimerais quand même noter que depuis le début de l'année, il y a plusieurs organismes qui dénotent, plein d'articles de journaux qui semblent montrer qu'il y a un regain de ces comportements homophobes. Puis ça, on va en discuter un peu plus tard à l'émission. J'aimerais quand même te demander aujourd'hui comment tu te sens, comment tu vis tout ça.
Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, au regard de la dernière semaine à travers laquelle je viens de passer, J'ai un peu d'espoir dans la mesure où la chose a été prise au sérieux par autant les médias que par certains partis politiques. À cet égard-là, je dois quand même saluer la position du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. On peut être en accord ou en désaccord en totalité ou en partie avec certaines des positions, mais au moins, il y a eu le courage d'aborder la question. Je dis ça dans le fond parce que je dois souligner quand même ma déception de voir que Québec solidaire ne s'est pas prononcé alors que pendant la dernière grève des enseignants et des enseignantes qui étaient particulièrement actifs pour avoir notre sympathie, alors que là, j'ai l'impression que comme l'enjeu est sensible et complexe, on n'ose pas se mouiller, mais je suis quand même déçue de ça, en fait. Là.
On aura beaucoup de questions à poser ici à la Roland Cartier se lève à tous ces gens-là. Merci beaucoup, Francis Richer.
Ouais. Ben, c'est moi qui vous remercie.
Ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
C'est inquiétant. Deux hommes gays en Estrie tombent victimes d'un guet-apens lors d'une rencontre sur l'application de rencontre Grindr. Les deux victimes préfèrent garder l'anonymat et refusent d'accorder des entrevues, on les comprend, mais ils ont pris contact avec le groupe de recherche et d'intervention sociale Gris-Estrie et son directeur général, Samuel Beaudoin, a accepté de nous parler de tout ça. Bonjour, bienvenue à l'émission, Samuel.
Bonjour. En fait, j'ai juste clarifié aussi, là, on n'a pas eu de contact, malheureusement, avec les personnes qui ont été victimes, mais on a ouvert une porte si jamais il y avait un
besoin. J'avais mal compris ça. Mais vous êtes au courant, Samuel. D'abord, je vais vous demander, Samuel, on utilise quel pronom et quel accord avec toi?
Pronom il, accord masculin.
Excellent. Alors, comment vous avez réagi à Gris-Estrie quand vous avez été informé de ce guet-apens dans votre localité? Là, que ça me semble que c'est assez surprenant, hein?
Oui, c'est quand même surprenant. En même temps, malheureusement, pour nous, c'était un peu logique, on dirait, dans l'escalade des violences. Depuis là, environ 3 ans, un peu plus, depuis en fait le début de la pandémie, finalement, on voit qu'il y a une escalade des violences homophobes et transphobes. Puis ça se représentait davantage à l'écrit dans nos questionnaires avant. Mais on trouvait que c'était quand même logique au niveau de l'escalade des violences. Puis on espère que ces dénonciations-là sont les seules qui sont arrivées aussi. Nous, une des premières réactions qu'on a eues dans l'équipe, en fait, c'est de se demander si ce n'était pas arrivé avant, mais qu'il n'y avait pas eu de dénonciation. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être utiliser les applications ou ne pas utiliser les applications, vivre de telles situations-là et pas nécessairement vouloir faire de coming out. Donc, quand il y a une dénonciation, on ne veut pas, on n'a presque pas le choix, on a l'impression qu'on n'a pas le choix de faire un coming out. Donc, nous, on a eu un peu peur de cette situation-là. On a réagi automatiquement en essayant de resserrer nos mesures de sécurité au Gris-Estrie au niveau des événements. Ça a été comme un peu... ça nous a remis un peu la réalité là, en face qu'il faut vraiment se protéger là, des escalades des violences.
Oui, parce qu'on en parle beaucoup depuis le début de la saison à cette émission, puis on en parle présentement dans l'émission aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle de la cyber-intimidation, mais c'est violent, c'est dur, mais on dirait que ça a comme pris une autre tangente là, avec ces deux agressions-là. Et je dois avouer que ça arrive ailleurs dans le monde. Il y a des cas en France où ça arrive aussi. Alors, ça semble être la première fois que ça arrive dans votre région. Avez-vous peur que ça devienne, ce qu'on vient de dire, que ça devienne un phénomène courant, que ça devienne... que ça arrive plus souvent à cause de cette situation dans laquelle on vit présentement?
C'est sûr qu'il y a une certaine peur qui reste que ça survienne de nouveau. Par contre, on observe vraiment les deux depuis plusieurs années. À la fois, oui, il y a une polarisation, puis il y a une montée de la haine, puis la haine en général aussi, là, au-delà de l'homophobie et de la transphobie, mais aussi il y a une montée du support de nos alliés. Puis on l'a vu vraiment beaucoup. Nous, on vient de terminer la fierté là, à Sherbrooke, puis à la fête, c'était du 9 au 15 septembre. Puis on a vu énormément de personnes alliées venir dans nos événements, des nouvelles personnes, nouveaux visages s'afficher, venir dans nos événements, qui faisaient partie ou non de la communauté. Donc, on voit vraiment les deux. On voit beaucoup plus de mobilisation pour les communautés de LGBTQ+, mais aussi plus de peur et plus de haine aussi de personnes qui ont des comportements homophobes.
Puis rappelons un peu hein, ce qui s'est passé. Donc, ce sont deux hommes qui ont rencontré quelqu'un, fait une rencontre virtuelle hein, sur, ben, on parle de Grindr, mais il y a d'autres applications de rencontre, et ont accepté de les rencontrer dans un endroit quelconque. Et quand ils sont rendus là, c'était plusieurs personnes qui les ont battus. Alors, moi, je me demande comment les communautés de la région en Estrie ont réagi et quelle sorte de mobilisation on voit avec ça.
Oui, bien en fait, nous c'est arrivé tout juste avant faire la fête. Donc la réaction générale, ça a été d'augmenter nos mesures de sécurité dans nos événements. On le fait aussi pour les personnes qui ont participé. Et c'est intéressant parce que on a utilisé des façons d'augmenter nos mesures de sécurité qui faisaient participer nos bénévoles et qui n'étaient pas non plus effrayants, qui faisaient pas peur non plus parce que notre objectif c'était quand même de célébrer nos réalités. Donc, on a bien réussi, je pense, l'entre deux. Puis, dans le fond, dans la plupart des organismes, ce que je vois, c'est ce souci-là de s'assurer que nos membres, puis les personnes, les communautés qui viennent dans nos organismes soient en sécurité. Et que c'est vraiment ça qui a circulé. Sinon, on a eu aussi des rencontres avec des représentants politiques pour vraiment s'assurer qu'il y a une communication qui se fait à ce niveau-là, puis qu'ils soient informés de ce qui se passe.
Bon, les auteurs de ces crimes dont on parle, parce que ce sont des crimes, et en général, quand ça se passe, minimisent le caractère homophobe pour mettre de l'avant l'aspect crapuleux, en raison, parce qu'ils se disent, ben, nous, on s'attaque à eux parce qu'ils sont vulnérables. Abuser de la situation de vulnérabilité et de la discrétion des personnes LGBTQ+, est-ce que c'est pas quand même homophobe, ça?
C'est une bonne question. Mais en fait, ça arrive souvent là, que les personnes se cachent sous des autres excuses aussi parce qu'elles ne veulent pas. Même si les gens homophobes et transphobes s'affichent davantage ces temps-ci, c'est quand même pas accepté socialement. T'sais, on peut pas vraiment dire qu'on est homophobe et que ça passe aussi facilement qu'il y a 20, 25 ans. Donc, les gens vont essayer de se cacher derrière, mais là, tu sais, quand on voit des situations comme ça, avec tous les détails qu'on connaît de l'action, c'est assez difficile de dire que c'est pas en lien avec l'homophobie et la transphobie.
Alors, quel conseil on pourrait donner aux personnes de nos communautés qui utilisent les applications de rencontre? Parce qu'il faut dire que c'est quand même important quand on veut rencontrer quelqu'un, surtout pour une première rencontre, qu'est-ce qu'on doit leur dire?
Ben, c'est certain que pour toute personne, puis tu sais, en dehors des communautés aussi, puisque les applications sont aussi utilisées par en fait, toute personne qui veut
Oui.
rencontrer quelqu'un d'autre. Des fois, c'est même pour des amitiés sur certaines applications. Donc, vraiment, c'est sûr d'essayer de rester en sécurité. Des fois, ça peut être intéressant d'avertir une autre personne, les informations qu'on a sur la personne qu'on va rencontrer. En même temps aussi, c'est important, je pense, dans ces moments-là, de se rappeler que la faute de l'agression, tu sais, vraiment repose sur la personne qui agresse et qui fait violence, et que dans le fond, les personnes auraient pu se protéger un maximum et ça serait quand même arrivé. Fait que c'est sûr qu'il faut toujours essayer de rester en sécurité, mais il faut pas oublier aussi ce détail-là. Des fois, j'ai l'impression que dans les différents médias où on rapporte l'événement, des fois on peut oublier cet aspect-là, puis le rapporter comme si les victimes finalement avaient manqué de moyens de sécurité ou
Manquer
c'était
de
pas
jugement,
protégé.
quoi, oui.
Ouais, exact.
Bon, et le rôle du GRI en Estrie, vraiment comme dans tous les GRI, le groupe de recherche et d'intervention sociale, c'est de favoriser donc une meilleure entente, puis de favoriser aussi une meilleure acceptation des personnes de nos communautés. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre mission ou est-ce que des choses vous allez changer dans votre façon de faire pour contrer là, cette violence qui semble se pointer, là?
Ben, nous, c'est sûr qu'on travaillait déjà là, en amont. Ces deux agressions-là, on travaillait à développer une équipe d'intervention, mais c'est vraiment en état embryonnaire. Mais on voit, t'sais, le GRI Estrie, on essaie de s'adapter vraiment selon ce qui se passe dans notre société, dans notre région. À la base, on a été créé vraiment pour pallier à des besoins des jeunes de moins de 17 ans. Et là, on voit que finalement, par exemple, cette année, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de besoins au niveau des personnes de 55 ans et plus. Donc, on a créé un volet aîné avec des interventions spécifiques. Donc vraiment, on essaie de s'adapter selon notre financement. Bien entendu, c'est toujours le nerf de la guerre, mais selon notre financement, on essaie de développer des nouveaux services puis de développer de l'accompagnement. Donc notre prochaine étape, c'est certain, ce serait une équipe d'intervention.
Bien, merci Samuel Beaudoin, directeur général de GRI Estrie.
C'est
Merci.
l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Comment se protéger contre la violence en ligne, comme l'a vécu Francis Richer, l'étudiant en enseignement, ou ceux qui subissent des pièges sur une application de rencontre?
Nous recevons Naoufel Testaouni, qui est fondateur et directeur général de QueerTech. C'est un organisme qui s'efforce de rendre l'écosystème technologique plus queer en faisant tomber les barrières et en créant des espaces et en connectant les communautés pour soutenir et permettre aux personnes de LGBTQIA+ de s'épanouir. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, c'est toujours les pronoms et les accords masculins.
Oui.
Comment éviter? On va commencer par parler de ces deux hommes qui donc ont fait des rencontres sur Grindr en ligne et vont à la rencontre de ces personnes-là pour se rendre compte que c'était un piège et qu'ils subissent de la violence. Ils auraient pu être battus à mort, mais ils ont été battus. Oui. Comment on fait pour éviter ça?
Oui, malheureusement,
c'est une bonne question.
C'est une très bonne question. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plusieurs cas qu'on a vus. Ça s'est passé à Toronto, dans d'autres villes. Comment se protéger? Il y a quelques manières à faire ça. T'sais, les gens, souvent, on va recommander, de s'assurer de savoir à qui on parle. Peut-être regarder, il y a des outils sur les applications comme connecter les profils des gens comme Instagram, Facebook et tout, qui se connectent à ce profil. Parfois, ça serait bien de parler à ces gens-là sur leur profil pour tester si c'est la bonne personne
Regardez, je ne sais pas si on peut savoir sur Grindr quand la personne s'est inscrite, mais souvent, ils ont des liens vers leur Twitter ou leur Instagram ou leur Facebook.
Exactement. Oui, ça, c'est une bonne manière de valider. La deuxième manière, tu sais, s'il y a une manière de parler... faire une vidéo appel avec la personne, c'est toujours une belle indication de savoir à qui on parle, puis valider ça. Tu sais, les gens maintenant sont de plus en plus conscients des problèmes qu'il y a, puis les gens qui sont sérieux, ils vont être ouverts à discuter. Si on n'a pas moyen de faire ça, faut toujours avertir un ami. Dites-leur que vous allez rencontrer quelqu'un. Activez sur nos téléphones mobiles, on peut partager où est-ce qu'on est. Avec un ami ou une personne proche, comme ça, s'il y a un problème, ils savent, ils peuvent aller regarder un peu où est-ce que vous en êtes, puis ils peuvent aussi intervenir en cas d'urgence. Certaines applications aussi, il y a aussi de regarder un peu dans les profils, les photos et tout, faire un peu de due diligence, comme on dit, pour voir si... est-ce qu'il y a d'autres photos de ces personnes-là? C'est quoi l'information? Souvent, les gens qui vont essayer de se présenter comme d'autres personnes, parfois, ils ne vont pas tout remplir, il n'y a pas de photos, il n'y a rien dans
Ils prennent des photos.
Oui, ils prennent des photos d'autres personnes. Ça, c'est pour ça qu'on veut comparer avec les médias sociaux. C'est une belle manière de comparer. Moi, j'irais même aller parler à cette personne-là sur Instagram pour voir est-ce que c'est la vraie personne ou pas.
Cela dit, moi, je me dis toujours, quand c'est trop beau pour être vrai, ça l'est.
Absolument, absolument.
Alors, vraiment se méfier. C'est sûr qu'on peut faire toutes les vérifications d'usage. Il y a toujours des risques. L'endroit où on va rencontrer quelqu'un, c'est...
En public.
En public.
C'est très recommandé aussi d'aller rencontrer la personne en public, dans la rue. Quelque part où aussi il y a plein de monde, c'est dans des cafés, des endroits comme ça, c'est toujours recommandé. Éviter d'aller chez les gens directement, chez eux, ou se rendre quelque part où il n'y a pas beaucoup de monde. Souvent, quand le monde va donner ce genre d'indications, il faut se méfier un peu pourquoi ils veulent se rencontrer quelque part où il n'y a pas beaucoup de monde au lieu d'aller dans un café avant pour cette rencontre-là.
C'est toujours un peu compliqué parce qu'on va s'entendre, les gens font des rencontres sur Grindr ou sur Scruff ou peu importe. Je vais le dire, c'est un plan cul.
Ouais.
Alors, c'est toujours un peu délicat de rencontrer quelqu'un dans un lieu public pour éventuellement avoir une relation sexuelle.
C'est absolument. Mais regarde, aujourd'hui, le risque, on voit ce genre d'incident commence à y avoir de plus en plus, avec toute l'augmentation de la haine contre la communauté LGBT, tout ce qui se passe un peu. Je pense que c'est mieux de faire des précautions comme ça, où on essaie au moins de rencontrer la personne dans un endroit public, puis on peut aller marcher chez eux, mais garder aussi en tête. Il y a beaucoup de... faut faire attention à la conversation aussi. Parfois, il y a des signes. Si c'est la personne n'est pas consistante de ce qu'ils disent, si les photos ne sont pas là, s'il n'y a pas la connexion dans le réseau des médias sociaux, tout ça, c'est des indications qu'on peut se méfier ou faire confiance de plus en plus à la personne à qui on parle.
Maintenant, la situation fait en sorte que la personne qui est potentiellement la victime est la personne qui doit faire toutes les démarches, mais on n'a plus le choix dans nos... Et puis j'aimerais porter ça maintenant sur la situation qui est arrivée à Francis Richer, professeur, en fait, étudiant en enseignement, qui se retrouve avec des publications absolument horribles, qui l'accuse même d'avoir violé des enfants, ce qui n'est pas vrai.
Non.
Ça, est-ce qu'il y a moyen de se protéger contre ce genre de situation-là?
Oui, absolument. Il faut reporter tout ça dans les applications. La plupart des applications aujourd'hui ont un mécanisme pour reporter ces informations. Si ce n'est pas des vraies informations ou c'est d'informations sur nous, de pouvoir les avertir. Malheureusement, le monde d'Internet, l'Internet en général n'est pas très régularisé dans le sens où est-ce que si on partage des photos, ça peut sortir autre part. Sauf qu'il faut faire attention encore à qui on partage des photos, surtout photos intimes. Mm-hmm. Mais sur les applications encore, il y a des mécanismes de reporter ça à l'application pour qu'on puisse gérer ça. Il y a d'autres applications qui ne sont pas très bonnes comme X et autres.
Ouais.
Ça, c'est pour ça qu'il faut être plus à faire attention au début de partager des informations personnelles ou des photos personnelles.
Maintenant, au Canada, quand on fait des plaintes contre ce genre de cyberharcèlement ou cyberintimidation, la police n'intervient pas en disant ben, « c'est la liberté d'expression, ça prend des menaces claires ». Est-ce qu'on va devoir un jour ou l'autre avoir une loi comme qui existe en France qui protège contre ce genre de situation-là?
Absolument, absolument. Je pense qu'on est un peu en arrière au Canada de ne pas avoir ces lois-là. L'Allemagne aussi, on est en Australie.
Oui.
J'ai fait un peu de recherche, j'ai vu plusieurs pays ont commencé à implémenter. Tu sais, ça fait plus de sens que si on se fait harceler en personne, ben là, on peut porter plainte à la police, mais si on fait harceler en ligne, on ne peut pas encore, ou la police veut demander plus de preuves. Je pense qu'on doit dépasser ça. Maintenant, le monde passe plus de temps sur Internet ou sur les applications qu'en personne.
Tout à fait.
Puis il faut vraiment qu'on change nos lois pour que ça doit être pris au sérieux. Je pense aussi, une fois qu'on a des lois qui sont très strictes, je pense que ça va aussi, espérons, diminuer un peu ce genre d'harcèlement en ligne parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être très graves.
Naoufel Testaouni, fondateur et directeur général de QueerTech, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Merci beaucoup.
Non, c'est bon. Alors, après la pause, Safia Nolin, Debbie Lynch-White, Antoine Charbonneau-Demers et nos chroniqueurs Brian Saint-Louis et Donald Bilodeau, c'est notre tout nouveau segment Culture Queer. Il sera question de Surveiller et puni, un spectacle théâtral sur la violence en ligne subie par Safia Nolin, et de mon serviteur qui est en toute première bientôt, spectacle d'Antoine Charbonneau-Demers et la chronique livre de Brian Saint-Louis et la chronique de Donald Bilodeau, tout de suite après la pause.
Où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Et on part en culture avec notre toute première chronique, Culture Queer.
Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Alors, vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce de Surveiller et puni. C'est un spectacle où l'opéra, le chant, le mouvement, les paroles s'unissent pour raconter une histoire pourtant fort médiatisée, mais qu'on n'a pas vraiment compris ou connue, ou on n'a pas su comment est-ce que ça s'est passé et comment la personne qui a subi ça l'a vécu. Je parle donc de la violence subie pendant des années par l'artiste Safia Nolin sur les réseaux sociaux. Surveiller et puni reprend plusieurs, en fait, c'est la
comme ça qu'on fonctionne, c'est les thèmes, pas les thèmes, mais les paroles, ce qu'elle a reçu de paroles haineuses qu'a reçu Safia. Et on replace ça dans un autre contexte qui aide à comprendre cet impact. Ce spectacle est un concept de Philippe Cyr. Le livret est écrit par Jean-Philippe Barry-Guerrard. Et je reçois les deux artistes principaux parce que vous êtes comme une vingtaine, vous êtes 23 sur scène dans tout et partout, ouais.
Oui.
Alors, je reçois donc Safia Nolin et Debbie Lynch-White. Salut tous les deux.
Bonjour.
Alors, j'ai une tradition ici. On demande toujours à nos invités, quand c'est la première fois qu'ils viennent dans nos studios, quel pronom et quel accord on utilise, Safia?
Moi, c'est elle.
Et féminin?
Oui, féminin.
Même chose pour moi.
Merci de demander, c'est important.
C'est important de le faire, ouais. Safia, je vais commencer par toi. Comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien. Aujourd'hui, ben il faisait chaud, ça me plaît moins. Mais outre ça, je me sens de bonne humeur, là.
On a l'impression que tu...
Personne ne me croit, on dit.
Non.
Moi, je te crois.
Moi, je te crois.
Oui, moi aussi.
Moi, je vais le dire, je rencontrais souvent Safia au Café Les Arts, ici
c'est
à Montréal.
Vrai.
Et à chaque fois, j'avais l'impression, ah, que j'ai du fun. J'ai rencontré une personne heureuse.
Oui.
Et je t'ai vu dans un lancement de la programmation, puis je t'ai dit, ah, oh, mon Dieu, je viens de retrouver Safia.
Et voilà.
Comment tu vas, toi, Debbie?
Ça va mal. Non, ça va super bien aussi. Très heureuse de faire ce spectacle-là avec Safia, puis on a beaucoup de plaisir ensemble.
Ouais.
On se fait beaucoup rire.
Oui.
Et vous nous faites rire. Et ça, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas que j'étais pour rire à des moments tout à fait inappropriés, mais ça, j'imagine que c'était le but de l'exercice.
Oui. Sur la scène, il y a quelques petits moments peut-être qui peuvent être un peu drôle, puis tu sais, dans les insultes aussi, on se rend compte que les gens ont été créatifs parfois dans leurs insultes, puis tu fais « Oh mon Dieu! » Puis là, ça te décoche un petit sourire. Mais dans les loges surtout aussi, on passe du bon temps.
Alors, nous, on a décidé qu'on ne parlait pas des atrocités qui avaient été dites parce qu'on les retrouve sur scène.
Ouais.
Je pense que ça suffit. Et je ne veux pas non plus divulgâcher. Mais je vais quand même te demander, Safia, je pense que est-ce que tu as pris une distance? Parce qu'il faut l'avoir fait pour être capable de faire ce que tu as fait là.
Ben, je pense que oui, parce que c'est des trucs qui m'arrivent depuis quand même un petit bout maintenant. Puis il y a des années qui ont passé où est-ce que je reçois encore de la haine, là, j'en reçois moins. Puis c'est des vagues aussi, c'est s'il y a un événement, s'il y a un char qui brûle, par exemple, des affaires de même. Mais non, oui, c'est vrai que j'ai une petite carapace, un petit mur qui s'est installé entre moi et
mais
et
parce
les gens.
Que... t'es allé chercher les outils aussi, puis t'as travaillé, puis t'as consulté, puis tu sais, je veux dire, parce que c'était ça a été intense. Là,
ça a été très intense. Là, je veux dire, ça m'a fait faire une dépression. Je pense que j'ai souvent remis en question de faire de la musique, même de disparaître. Puis là, à un moment donné, je me disais, mais là, même si j'ai envie de disparaître, je vais bien aller en Abitibi vendre des fraises. Le monde, ils vont me reconnaître, puis m'haïr pareil. Fait que c'est sûr que ça m'a créé une grande détresse, là. Psychologique.
Mais c'est vrai que par rapport à la question de la distance, c'est vraiment intéressant parce que dans le travail, Philippe et moi, entre autres, t'sais, je veux dire, on travaille avec une matière qui est ultra réelle. C'est que du vrai. C'est nos noms, c'est Safia et Debbie qui sont là. T'sais, moi, comme actrice, j'étais habituée de jouer des personnages, jouer des bonhommes. T'sais, je joue Sacha dans Platonov, je sais que Sacha, elle n'existe pas. T'sais. On l'a automatiquement, cette distanciation-là. Alors que là, tout d'un coup, on était dans quelque chose de tellement vrai que Philippe et moi, t'sais, on recevait ça un peu en pleine gueule au début, alors que Safia, elle, avait comme une longueur d'avance par rapport à la distance sur ces propos-là. T'sais, elle... Il y a quelques années, elle les a reçus en pleine gueule. Et là, c'était nous qui vivions ça. Puis il a fallu justement trouver c'est quoi la distanciation que ça prend pour être capable de jouer ça soir après soir et être dans le plaisir. Parce qu'on s'entend que notre job, c'est pas non plus s'ouvrir les veines sur scène à chaque soir. Puis on l'a trouvé dans le travail, mais ça a été vraiment... Un enjeu à un moment donné là, qui a suscité beaucoup de discussions puis de réflexions de ma part, en tout cas, dans mon travail.
Moi, j'aimerais inclure Donald Bilodeau, qui est chroniqueur culturel ici. Donald, sans divulgâcher, parce qu'il y a vraiment des beaux punchs.
D'accord.
Comment, toi, t'as reçu ce spectacle-là?
Ah, moi, j'ai reçu... au départ, j'appelais ça de la science-fiction. J'ai dit que non, Stanley Kubrick, es-tu ici? C'est pas possible. Parce que j'avais entendu parler, comme tout le monde, de ton histoire, mais je les connaissais pas, les insultes que t'as reçues. Tu sais... moi, je me suis déjà fait insulter quand j'étais jeune. Je me suis traité de tapette ou je sais pas quoi à l'école. Mm-hmm. Bon, ça m'est arrivé en 1977, là. Tu sais, c'est pas rien de nouveau. Mais de voir ça avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et ce qui m'a le plus troublé, c'est de constater, au fond, là, le malheur des gens.
Ah oui.
Le malheur. Oui. C'est ça qui est dramatique. C'est pas seulement vous autres ou toi qui as reçu les insultes ou toi qui en reçois ou Ginette Renault ou n'importe qui reçoit des insultes. C'est de constater la. Je dirais le malheur des gens et leur solitude.
Mm-hmm. Ouais, pis,
parce que c'est pas un party qu'ils font eux autres. Là. Ils sont seuls à la maison, devant leur écran. Mais il faut être malheureux, mais c'est incroyable.
Mais c'est surtout, tu sais, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça dans le travail. De... Tu sais, moi, il y a des gens que j'aime pas ce qu'ils font dans la vie.
Moi aussi.
On en a toutes.
On en a tous.
Je veux dire, j'aime pas, ça m'accroche pas ce qu'ils font.
Exactement.
Mais jamais je ne ressens l'impulsion d'aller leur dire ou de leur écrire, puis tu fais, mais c'est quoi cette affaire-là qui te pousse à aller au bout du geste, là,
c'est ça.
D'écrire tes lettres, ta musique est de la merde.
Ouais.
Tu fais comme, moi, ça me traverse même pas l'esprit de faire ça.
Ben
je suis comme, qu'est-ce qui fait que des gens
que tu t'abonnes à la page de quelqu'un que t'aimes pas déjà en partant.
C'est beaucoup de tristesse.
Moi, je pense qu'il y a un truc de la solitude qui est super important là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi une façon de sortir de la solitude en bâchant.
Oui.
Tu sais, je veux dire, ouais, c'est scientifique, c'est prouvé. Tu t'entends mieux avec les gens quand tu as quelque chose de négatif à dire.
Ça crée une communauté.
Ça fait une communauté. Puis il y a des gens qui sont pas sur le party, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui se tag, qui rit de moi, des trucs comme ça. Moi, ce qui m'a vraiment scandalisé dans cet exercice-là, que c'est sûr que ça va m'avoir fait tellement cheminer, c'est que après, j'ai eu d'autres vagues de haine. Puis pour vrai, à chaque fois que je reçois un message, pour moi, c'est comme si c'était l'intelligence artificielle qui l'avait générée, parce que c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas d'originalité à part dans le spectacle, parce que oui, on a découvert des trucs.
Il y a des bonnes lignes.
Mais c'est rendu juste... Je ne sais même pas si les gens ils se rendent compte que c'est de la haine. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que les gens sont repoussés dans des retranchements.
Ouais.
Ils ont peur, ils ne comprennent pas les gens qui sont différents, puis ils veulent se sentir moins seuls dans cette peur-là. Puis au lieu de s'informer, ils se mettent en gang pour détester des gens qui ne comprennent pas,
exact.
Je pense.
Il y a tellement de beaux moments dans cette pièce. Je vais quand même en souligner quelques-uns. Il y a une scène dans le bain.
Oui.
Et je vais le dire, quand vous vous garochez des spaghettis ou je ne sais pas trop quoi, c'est tellement drôle. Puis sur le fond, tu entends des insultes. Je me dis, mais regarde, ils ont du fond. Ces deux femmes-là, pourquoi c'est un problème qu'elles soient, on va le dire, enrobées, je ne sais pas si vous
êtes grosses.
Vous êtes grosses, c'est ça.
On a fait buzzer une
grosse! Non, mais grosse, c'est un adjectif. Hein. Faut enlever
faut
le
déconstruire,
caractère
ça.
D'insulte. Là. On est grosse, c'est un fait.
Ouais. Mais je trouve, tu sais, moi, je regardais ça et on s'est dit, mon Dieu, mais pourquoi? Là, c'est là que tu comprends pourquoi les gens voient ça, juste parce que elles n'ont pas le corps des premières pages de magazine. Mmh. Moi, j'imagine les gars qui envoient des commentaires sont probablement gros, eux autres aussi.
Ah hein? Oui, oui. Hey, moi,
ouais,
j'ai
mais moi, en début de carrière, j'avais remarqué ça. T'sais, évidemment, j'ai vraiment pas reçu beaucoup de haine dans ma carrière. T'sais, j'ai un parcours différent avec ça que Safia. Mais au début, quand je suis arrivée dans l'unité 9, les premiers commentaires que je recevais, quand c'était grossophobe, j'allais voir les profils et la majorité, c'était des gros. Parce que c'est confrontant si toi, tu t'aimes pas et que
tu vois
t'es
quelqu'un
pas bien dans ton corps. C'est confrontant de voir une grosse habillée en paillettes puis vivre sa best life dans un gala, tu sais. Fait que puis c'est ça, c'est plus facile de lancer ça sur cette personne-là plutôt que retourner le miroir.
Moi, je t'haïssais dans ce show-là, mais c'est parce que t'avais un personnage haïssable.
T'es bonne pour faire son bonhomme.
Mais tu sais, c'est ça. Souvent, il faut que les gens fassent un peu de réflexion sur eux-mêmes, je pense.
Vous restez avec nous, on continue l'émission.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Bien, on va passer, ça vous tente, je vous garde tout le monde ici, puis je n'ai pas encore fait parler à Antoine Charbonneau de Mers, mais ça s'en vient. On va aller à Québec. Brian Saint-Louis est notre chroniqueur de livres. Brian, je sais que tu n'as pas eu la chance de voir le spectacle dont on a parlé, mais tu connais bien Safia Nolin quand même. Ah, Brian, branché.
Brian, il se plug les écouteurs, ça arrive, ça, des fois, un petit délai.
Alors, Brian, on va continuer. Son micro n'est pas ouvert. Allume ton micro, Brian.
Tout va bien. Ah, il s'est démuté.
Alors, Brian, je voulais juste te demander, je sais que tu n'as pas vu le spectacle, il n'est pas allé à Québec encore, il s'en va chez vous au Trident, mais tu connais bien Safia. Comment tu réagis, toi, avec toute cette haine que certaines personnes reçoivent juste parce qu'elles ont un look différent? Mais Safia, tu n'es pas si différente que ça, Caroline.
Ouais, je suis poule, je suis trop poule.
Moi non plus. Je ne vais pas te faire de peine, mais t'es
ben
pas...
là, je me sens...
Brian, comment tu réagis à ça, toi?
Ah, ben moi, quand j'entends des belles initiatives de spectacles comme ça, je trouve ça toujours intéressant. Puis c'est sûr qu'il va y avoir énormément de questions. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ignorance agressive. C'est un mot de société qu'on a présentement. J'espère toujours que le message de ce spectacle-là va arriver à se rendre à ces personnes-là, parce que c'est peut-être pas eux, justement, qui vont aller le voir, alors qu'ils auraient tellement besoin d'aller voir ce spectacle-là pour comprendre des choses. Parfois, on ne se confronte pas exactement à tout ce dont on aurait besoin pour se poser les bonnes questions, parfois, dans la vie. Fait que j'espère qu'on va en parler beaucoup de ce spectacle-là, justement, parce que ça va pouvoir tomber dans les oreilles de certaines personnes qui n'iront pas voir le show, mais qui ont des questions à se poser à la maison. Voilà.
Ben, allons-y avec la chronique livre. Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Oui, ben c'est ça. Je vais vous amener sur un livre plus léger, peut-être, pour vous remettre un peu de bonne humeur et tout ça. Jean-Michel Fortier, c'est le beau succès de la rentrée quand même. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a fait la une du FUG. Donc, c'est un livre qui a été remarqué. Un livre qui aurait pu s'adresser aux ados, mais qui s'adresse beaucoup aussi aux adultes. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont moins de 20 ans comprennent toutes les références historiques dans ce livre-là, mais ça s'adresse donc quand même à tout le monde. Peut-être une écriture plus adolescente, mais qui va s'adresser beaucoup aux adultes. On nous amène en 2003 à Sainte-Foy. On va suivre l'histoire de Colin. Colin est en secondaire 5, qui va dans une école où presque tout le monde s'appelle Catherine ou Guillaume. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Je trouvais que ça manquait de Marie-Ève et d'Émilie, là, mais c'était quand même très drôle comme flash. Il passe son temps sur MSN avec son ami Eugénie. Il travaille un jour par semaine dans un magasin de bébelles. Il vend des pierrots. J'allais dire que c'est aussi le plus grand fan de Céline Dion, mais je sais que Safia est là aujourd'hui.
Ouais,
donc
wow.
Elle pourrait contester cette affirmation-là. Et Colin... depuis peu, il est en amour. Il a croisé Yann Moreau dans un party organisé par son frère dans une cage d'escalier. Et c'était deux minutes qui ont complètement bouleversé sa vie. Ça y est, il ne pense plus qu'à ça, même s'il continue quand même de penser beaucoup à Céline Dion. Mais là, à partir de là, il ne pense vraiment qu'à Yann Moreau, ce gars qu'il a croisé dans une cage d'escalier. Et là, il ne faut pas que j'aille beaucoup plus loin dans l'histoire parce que je vous volerais vraiment tout de suite beaucoup trop de punch.
On ne divulgage pas ici à l'heure où l'arc-en-ciel s'élève.
On essaie, mais c'est ça, c'est vraiment un livre le fun parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour dans l'écriture. Il y a la nostalgie que nous, les plus vieux, on va apprécier. C'est vraiment là, les premières histoires d'amour d'adolescents. Les particularités aussi des histoires gays. Là. C'est toute la naïveté de cet âge-là, là, le côté « Ah, mon Dieu, je n'aimerai plus jamais, jamais, jamais comme ça. » On salue Debbie Gibson et Foolish Beat. Donc, il y a quelque chose de vraiment cute là, dans ce livre-là. Une ambiance à peu près comme dans Heartstopper, justement, là, où on sent les premiers émois et tout ça. Nous autres, comme adultes, on se dit « Ah, mon Dieu, il va y avoir un drame qui va arriver à un moment donné. » À un moment donné, je me suis rendu compte que j'attendais comme un drame. Je me disais « Mais pourquoi j'attends un drame? C'est pas toujours obligé de finir mal. Les histoires d'amour, ça peut aussi bien se passer. » Donc, une lecture vraiment très optimiste. C'est sûr que là, on parle d'adolescence. Il va à l'école. C'est sûr qu'il y a un peu des petites mentions ici, là, sur l'intimidation, le fait d'être un gay dans une école secondaire, des choses comme ça qui sont pointées. Mais c'est pas le cœur du propos. On est plutôt dans vraiment une histoire d'amour adolescente très bien rendue. C'est très, très drôle. Je le faisais lire à mon copain hier qui lisait ça en riant à haute voix à tout moment. Donc, quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, je me le disais, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et beaucoup aussi de Céline Dion dans ce livre publié chez La Mèche.
Oh, on l'aime Céline, mais on aime Safia beaucoup plus ici. Hein?
Mais on aime beaucoup La Mèche. Moi, c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement.
J'aimerais qu'on aille immédiatement et rapidement parce qu'on a déjà interviewé Jordan, mais parlons de son livre « Tu es l'ogre ». Je pense que c'est un peu relié à ce qu'on va discuter après, oui.
Oui, bien c'est ça, un livre un peu plus chargé, celui-là. Je voulais en parler, il est paru le printemps passé, mais je n'avais pas eu le temps d'en parler parce que la saison finissait trop vite. Mais un livre intéressant et utile aussi, on parlait tout à l'heure là, d'intimidation, de personnes qui ont des problèmes avec leur poids. Jordan Dupuis, on le connaît parce qu'on l'a vu beaucoup à la télévision, on l'a vu dans des chroniques. On l'a vu changer aussi sur nos yeux, donc on sait. Puis il en a parlé beaucoup ici et là, des problèmes qu'il a eu avec son apparence. Là, il nous fait vraiment c'est un livre de chronique où il se révèle vraiment beaucoup, beaucoup. Il va nous raconter des histoires, il va quand même assez très loin. justement, au point où il est obligé de s'excuser à sa mère au début du livre en disant « Je m'excuse, maman, pour ce que tu vas lire dans ce livre-là, ça pourrait être dur pour toi. » On est vraiment dans son voyage intérieur. On se rend compte que, oui, il y a les problèmes de poids, il y a l'intimidation qui va venir avec ça, mais c'est tout, c'est le package deal un peu de tout ce que c'est dans sa vie, d'avoir subi de l'intimidation, d'avoir intériorisé des choses, des petites choses qui sont devenues excessivement grandes. Il a aussi vécu des vrais traumatismes, des événements qui étaient beaucoup, beaucoup plus graves. C'est rien de terriblement nouveau, je vous dirais. On dirait qu'on a l'impression d'avoir déjà tout assimilé un peu ce bagage-là, parce que c'est des histoires dont on entend plus parler maintenant, mais justement, comme je disais, par rapport à la pièce, d'en réentendre parler, de creuser plus, de se le faire remettre en dessous du nez, ça nous porte toujours plus à réfléchir. Certaines personnes ont des vies très difficiles et parce qu'elles vivent des choses dont on n'a pas toujours conscience. Donc, ce voyage-là, avec lui, maintenant, il a l'air d'aller mieux. Donc, c'est une lecture qui est intéressante beaucoup pour ça, pour le voyage, de se rendre compte que parfois, les gens vivent des choses vraiment extrêmes qu'on ne soupçonne pas. Et c'est ce qu'il révèle dans ce livre-là de manière assez crûment parfois. Donc, c'est sûr que ça nous remet les idées en place. Il y a quelques chapitres où il donne la place à d'autres qui le félicitent de tout le cheminement personnel qu'il a vécu. Ça, c'est un petit peu moins utile, mais en général, un livre vraiment à lire parce que ça remet beaucoup de choses en perspective. Ça s'appelait « Tu es l'ogre ». C'est paru chez Libre Expression le printemps passé.
Je pense que j'aimerais avoir une réaction parce que ça touche quand même quelque chose dont on a parlé, la grossophobie.
Ouais.
Comment lui a subi une intervention, ce qu'il appelle le truc bariatrique.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Puis ça a été super compliqué. Puis il a, pour le restant de ses jours, il reste avec des séquelles. Toi, là, quand tu entends ça, comment tu réagis, Safia, avec tout ce que tu as vécu? Je demandais aussi à Déby d'en parler.
Ouais. Ben, moi, j'ai lu aucun des deux livres, malheureusement, mais je les ai notés dans ma tête. Mais ben c'est sûr que c'est difficile d'être gros dans la société, puis t'sais, pour moi, la grossophobie, c'est super important d'en parler parce que c'est comme si c'est un truc que les gens voient pas, ouais. Les gens comprennent pas que ça existe, puis moi, je trouve que, tu sais, j'en ai vu des situations où est-ce que, mettons, le fait que le spectacle existe, mostly parce que je suis grosse quand tu y penses, parce que oui, j'aurais reçu des messages horribles sûrement si j'étais juste arabe, poilue et lesbienne, là, mais on s'entend que le fait que je sois une femme grosse, ça l'a vraiment, ça fâche le monde, puis c'est ça, moi, je comprends... J'aimerais bien qu'on en parle beaucoup plus parce que c'est partout.
Et qu'on vous voit. Moi, j'avoue que... Ouais, je peux encore, je veux pas trop divulgâcher, mais on voit quand même que vous êtes pratiquement nus sur scène. En fait, vous êtes
nus. On est nus.
Nus. Ouais. Et puis, moi, j'avoue que j'ai pas trouvé ça choquant. Je fais ça, « Ah, oh, mon Dieu, c'est-tu beau, finalement? » Je sais pas comment tu réagis, toi, quand on a ce genre de situation de grossophobie qui fait que quelqu'un va risquer sa santé pour perdre du poids, là.
Ben, je trouve ça... C'est un sujet très délicat, mais en même temps... Tu sais, évidemment, chaque personne le vit à sa façon, a sa relation avec son corps, avec son poids, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis de plus en plus tannée d'être dans une société où on doit justifier et expliquer qu'on a juste le droit d'exister, tu sais. Je veux dire, c'est, tu sais, des silhouettes, là, on a toutes des silhouettes différentes
oui.
Dès la naissance, tu sais. Je veux dire, être gros, c'est pas nécessaire, c'est pas une maladie, là, tu sais. Il y a quelque chose... Je veux dire, moi, je pèserai jamais 120 livres, là. Puis il y a vraiment quelque chose où, des fois, je suis tannée de livrer ce combat-là puis de faire « Hey, on peut-tu juste vivre notre vie puis exister? Qu'est-ce que ça vous dérange? » Tu sais. Puis là, de voir qu'est-ce qui arrive avec Ozempic,
ouais.
Avec tout ça, ça me fait capoter, tu sais. Ouais. Que là, je veux dire, il y a des diabétiques qui n'ont pas accès à leur Ozempic parce que là, les gens prennent ça pour maigrir. Puis c'est tout... Le problème, c'est la culture des diètes, là, dans le sens que ça fonctionne pas à 98%. C'est comme si Apple nous vendait des téléphones qui marchaient toutes pas à 98%, puis que si on leur dit « Hey, ça marche pas ton affaire », ils te font passer ça sur le dos, puis ils passent ça sur ta culpabilité, puis ils te font sentir que ben c'est ta faute parce que t'as triché, tu sais. Puis tu fais, c'est une industrie tellement lucrative,
ouais.
La culture de la diète, puis tu fais... Comment on continue de faire de l'argent à ça, à nos dépens, à ce point-là? Ça me fait un peu capoter.
Déby vient de faire un premier « J'en peux plus », mais on va revenir à ça tout à l'heure. On y va.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus! Bon, je me peux plus. Ça, c'est nos coups de cœur. Fait que moi, je vais commencer par le mien.
Oui.
J'ai invité Antoine Charbonneau de Mers pour nous, parce que j'aime beaucoup ce qu'il écrit.
Oui.
Je n'ai pas encore lu le dernier livre, Roman sans rien, mais ça s'en vient. Et tu as un spectacle à nous présenter. Puis je suis certain que ça va être bon. Donc, c'était donné mon coup de cœur.
Bon, ben, tant mieux.
Je vais le voir la semaine prochaine.
Pour ta confiance.
Ouais. Alors, parle-nous de ton spectacle.
Alors, Mon serviteur, c'est un spectacle solo où on est deux sur scène.
C'est-à-dire solo, que... deux sur scène. Alors, faut que tu que... ça.
Oui, voilà, je suis... c'est un monologue. Je suis seul sur scène, mais il y a avec moi mon serviteur qui sera traité comme un objet. Donc, il y en a deux présents sur scène, mais je dis que c'est un solo. Pour ce show-là, je voulais m'intéresser au concept de la servitude puis à comment ça se manifestait dans nos vies.
Ça me rappelle un peu Daddy, ça?
Oui, il y avait un peu de ça, mais c'est basé, encore une fois, bon, dans mon travail, je fais beaucoup d'autofiction, d'autobiographie, puis ce travail-là est inspiré d'un moment de ma vie où je sentais que j'étais tellement à la merci de tout le monde autour de moi, même de mes amis, même des gens qui m'aimaient. J'étais comme une personne soumise, pas seulement sexuellement, comme j'ai pu l'explorer déjà, mais vraiment dans toutes les sphères de ma vie. Je me suis dit peut-être que j'ai besoin d'en guérir puis qu'il faut que je renverse ça. Donc là, il y a un lecteur qui m'a écrit pour me dire, moi, j'accepterais d'être ton serviteur.
Ah.
Donc j'ai dit, bien sûr. J'ai hésité, wow. mais donc, et ce que j'aborde dans cette pièce-là, c'est la relation avec cette personne-là qui n'était pas facile. Hein? C'est-à-dire qu'on ne change pas sa nature en claquant des doigts. Donc ça donne lieu à beaucoup de situations assez drôles. Mais... voilà.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui.
Quand on dit « deviens ton serviteur », c'était comme à quel niveau? Ouais. Dans des trucs de la vie quotidienne, dans le rapport que vous aviez?
Oui, voilà, faire les tâches domestiques, okay. Donner des livres.
Okay.
Et c'est sûr que ça sous-entend aussi le jeu BDSM
oui.
Dominant-dominé, mais pas tant que ça.
Ça
c'est
allait
ça qui est intéressant.
Ça, c'était plus large que ça.
Oui, et même, c'était pas tellement ça, finalement. Puis dans la pièce, je joue beaucoup avec ça aussi. On se demande si on va aller là, mais finalement, on n'y va jamais. Mais c'est tout cet univers-là qui, pour moi, répondait comme à un besoin dans ma vie en général.
Reste avec nous. On a vraiment dépassé beaucoup le temps. Fait que je voudrais passer à l'autre bout de la lorgnette. Allons-y.
J'en peux plus.
J'en peux plus.
J'en peux plus!
Alors, c'est le temps des coups de gueule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un coup de gueule? Moi, toi, t'as fait le tien sur l'Ozempic.
Oui, sans savoir que j'en faisais un, mais oui, c'est ça.
Brian, t'avais-tu un petit coup de gueule à nous faire? Quelque chose? Non, je sais que Donald en a un.
Oui, moi, j'en ai un. Ah. C'est à propos d'Alain Delon.
Ah, mon Dieu, oui.
Alors, ce grand acteur français que tout le monde trouvait beau, trouvait charmant, qui a joué dans des films extraordinaires, Plein Soleil, qui était le premier film de Talented Mr. Ripley, qui a été repris par Matt Damon. Eh bien, il y a à peu près une dizaine d'années, à l'émission « C'est à vous », en France, il crachait au visage de tous son homophobie. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, là. C'est public.
C'est connu.
C'est connu. Alors, il a tenu des propos controversés à propos, il a dit que c'était que c'était contre nature. Je suis désolé, c'est contre nature. On est là pour aimer une femme, pour courtiser une femme, pas pour draguer un mec ou se faire draguer par un mec. Et puis là, il a enchaîné sur l'adoption, affirmant que les homosexuels ne devraient pas, hommes ou femmes, ne devraient pas adopter d'enfants. Même sa fille était sur le plateau et n'en revenait pas des propos de son père. Donc, Alain Delon m'a vraiment déçu.
Ben, je vais en rajouter, puis je vais s'en rappeler parce que tu as d'autres choses à raconter. Mais moi, ce qui me fâchait, c'est qu'on a fait l'éloge de cet homme-là dans tous les médias, puis il n'y a personne qui a dit, comme il était mort maintenant, tout ce qu'il a dit de conneries, ça ne comptait pas.
Ouais.
Puis qu'il était un supporter du Front National, etc.
Ben oui.
Il voulait se faire enterrer avec son chien. Mais il est encore en vie, son chien, puis sa famille a refusé, mais il voulait faire euthanasier son chien pour se faire enterrer avec.
Oh, ouais. Quelle horreur!
C'est fou!
C'est tellement égocentrique.
Ça n'a pas de sens!
Wow!
Puis on va passer à ton bout de chronique. Ben, bon. Il te reste du temps. On a quelques minutes.
Un petit peu de temps. Oui. Ben, je voulais parler d'un artiste peintre québécois, montréalais, gay, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yvon Goulet et que tu connais bien puisque oui. tu as travaillé avec lui.
Ben oui, il a fait une peinture de moi, oui.
Oui, et pas seulement
que
ça.
Que je peux pas montrer.
Ah non, que tu peux pas montrer, mais que j'ai vu. Chut, on le dira pas.
Oh, Seigneur, ça se confie ici à soi.
Mais il a travaillé aussi à ton roman, Le oui. journal intime de Dominique Blondin, en l'illustrant de quelques dessins. Alors, Yvon Goulet, c'est un artiste qu'on pourrait qualifier de peintre recycleur. Il est né en 1956 à Québec. Peintre recycleur, alors il peint les symboles, les uniformes, les fantasmes qui sont propres à la culture gay. Il peint parfois sur des toiles, mais ceci est très intéressant. Il est aussi ce qu'on pourrait appeler donc un artiste recycleur, car il aime utiliser des matériaux de récupération comme support à expression de sa création. Il privilégie l'acrylique.
On a encore
un petit peu de temps.
50 secondes.
50 secondes. Il peint aussi sur des pancartes électorales. A-t-il le droit de faire ça, me demanderez-vous? Oui, puisque selon la loi électorale, les partis politiques ont 15 jours après le début du scrutin pour retirer leur pancarte électorale. Alors après ça, ben, on peut en faire ce qu'on veut. Lui fait des œuvres là-dessus. Et si je ne m'abuse, il a fait un tableau de Safia Nolin. Je crois que oui.
On va aller vérifier ça.
Il a fait Ginette Renaud, il a fait quelques artistes et je crois qu'il en a fait un de toi. Ce sera à vérifier.
Ben, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à cet exercice-là. Merci. C'était l'épisode 83 de L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 16 septembre 2024. Merci à l'équipe de recherche Marie Massé et Godéric Trump. Merci aussi à Maurice Bolduc à la mise en onde. Et merci à toute l'équipe de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde d'être là.